autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour remonter le temps sur les traces des pharaons noirs, des royaumes de Napata et de Méroé dans l'ancienne Nubie, l'actuel Nord-Soudan. Pourquoi le royaume de Kouch, cité dans la Bible et par les auteurs antiques, a-t-il été presque totalement éclipsé par leurs illustres voisins égyptiens ? Qui étaient vraiment ces pharaons noirs ? Comment ont-ils édifié leurs pyramides ? Comment ont-ils influencé tout le continent africain jusqu'à l'océan Indien ? Comment ont-ils essaimé leur art, leur culture et leur langue, parmi la plus ancienne connue du continent? Comment les recherches archéologiques permettent aujourd'hui de révéler un pan oublié de l'histoire de l'humanité sur le continent? Voilà ce que nous allons découvrir avec nos invités, les égyptologues Claude Rilly, spécialiste de la langue méroïtique, chercheur au CNRS et directeur des fouilles de Sédenga, et Vincent Francini, directeur de la section française des Antiquités au Soudan, qui a dirigé les fouilles de Saï et qui nous arrive juste de Khartoum autour de la question « Que sait-on des anciens royaumes de Napata et de Méroé ?» Bienvenue. Bonjour Vincent Francini.
Bonjour.
Bonjour Claude Rilly.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager vos découvertes sur les traces des royaumes mythiques de l'ancienne Nubie au Nord-Soudan. Des recherches éditées dans un somptueux ouvrage, Soudan, histoire et civilisation, de la préhistoire à nos jours. Claude Rilly, vous êtes égyptologue au laboratoire Lacan du CNRS, laboratoire de langue et civilisation d'Afrique noire. Égyptologue, c'est une passion qui remonte loin. Je crois qu'à 7 ans, vous décryptiez déjà les hiéroglyphes. Vous êtes évidemment linguiste, internationalement reconnu comme spécialiste de la langue méroïtique. Vous avez été directeur de la section française de la direction des Antiquités du Soudan. C'est vous qui avez dirigé les fouilles de Sédenga sur la rive ouest du fleuve, au nord de la troisième cataracte du Nil, si je ne m'abuse, où vous avez mis au jour une des plus grandes collections d'inscriptions méroïtiques. Alors le méroïtique, c'est la langue la plus ancienne connue, écrite d'Afrique noire, et ça c'est vous qui l'avez démontré.
Merci. Démontrer, c'est beaucoup dire. Ce que j'ai surtout démontré, c'est l'appartenance du méroïtique à une famille de langues africaines, qui est une sous-famille du nilo-saharien. Le nilo-saharien, c'est une très grande famille de langues, très ancienne, qui comporte par exemple le toubou du Tchad ou le Maasai du Kenya, mais qui comportait aussi donc un rameau dont le méroïtique faisait partie. Et ça, c'est mon travail effectivement principal.
Parce qu'il y avait controverse sur le sujet, enfin on ne savait pas d'où venait cette langue.
Oui, la langue elle-même est très mal connue, elle reste mal connue, mais l'écriture elle-même a été déchiffrée en 1911 par un Britannique, Griffiths, et à partir de là, il a pu établir quelques petits éléments de grammaire, de vocabulaire, pas très nombreux, et pendant 100 ans, on s'est posé la question de savoir à quelle famille de langues le méroïtique appartenait, parce que évidemment, dans le cas de langues non mal déchiffré, je parle bien de langue, hein, je ne parle pas d'écriture, on a toujours ce problème de savoir si on peut le rattacher à une autre langue connue. C'est un problème qui existe pour l'étrusque, c'est un problème qui existe pour le gaulois, c'est un problème qui existe, je dirais que la plupart des langues anciennes écrites sont des langues qui sont mal connues.
Et le méroïtique est donc une langue africaine.
Alors le méroïtique est parfaitement africain et pour reprendre des termes un petit peu dépassés, négro-africain, je dirais, d'Afrique noire, dans la mesure où effectivement il n'appartient pas, comme on l'a supposé assez longtemps, sur des théories d'ailleurs en partie marquées par le racisme et la supériorité des amitiques qui seraient un peu plus blancs que le reste de l'Afrique, ce n'est pas une langue qui est rattachée à l'égyptien ancien, au sémitique, au couchitique, mais en fait dont les parents les plus proches sont parlés au Soudan et plus bas encore en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda par exemple.
Vincent Francini, merci d'avoir profité de votre passage rapide à Paris pour être en direct avec nous sur RFI. Vous êtes basé à Khartoum. C'est vous qui dirigez aujourd'hui la SEFDAS, donc la section française de la direction des antiquités au Soudan. Vous êtes également directeur des fouilles de l'île de Saï sur le Nil, joyau archéologique du Soudan, qui révèle justement ce passé particulièrement riche et méconnu de ces royaumes nubiens.
Oui, alors Saï, c'est vraiment un cas vraiment atypique dans toute la vallée du Nil. en ce sens que il a été vu, le site a été vu dès le début du 19e siècle, mais finalement, lorsque les premières expéditions archéologiques proprement dites se sont montées au 20e, personne ne s'y intéressait parce que ce sont les sites royaux qui ont tout de suite attiré l'attention des archéologues qui sont venus travailler au Soudan. Et c'est seulement dans les années 50 qu'un professeur français, Jean Vercouteur, a commencé les fouilles sur un site qui s'est révélé immédiatement comme un site majeur de l'histoire du Soudan. Et malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais il a dû s'arrêter car il y a eu la campagne de l'UNESCO qui s'est lancée pour le sauvetage des monuments de Nubie avant la mise en eau du lac Nasser. Et depuis cette époque-là, on a travaillé, il y a eu des équipes qui ont travaillé successivement, mais avec des arrêts sur des dossiers bien précis. Et moi, ça fait maintenant 3 ans que j'en ai repris la direction. Et on se rend compte que non seulement c'est un conservatoire parce que c'est une île mieux préservée en général. Une île sur le Nil, c'est la deuxième plus grande île de la vallée du Nil au Soudan. Ça fait 11 km de long sur 4 km de large. Hein, ça vous donne vraiment une idée de la dimension. Alors c'est très bien conservé et particularité unique, on a des vestiges de toutes les époques. Alors, on n'a pas tous les types de vestiges pour toutes les époques. Hein. Parfois on a des nécropoles, parfois on a des habitats et on n'a pas les deux. Mais on a un continuum historique depuis la préhistoire très ancienne jusqu'à l'époque moderne. Et ça, c'est unique. Ça nous permet notamment d'engager des projets de recherche sur les périodes de transition, comme par exemple la colonisation égyptienne, comment ça fonctionne quand les Égyptiens prennent la Nubie, comment ils s'implantent dans une région où il y a déjà des habitants, comment ça cohabite, ça donne naissance à quel type de métissage, de mélange, et puis quelles sont les conséquences pour la culture de la région.
On va y revenir à cette notion de métissage très très importante dans cette région. Vous disiez la préhistoire la plus ancienne, chronologiquement ces royaumes de Napata d'abord, puis de Méroé ensuite, ça démarre quoi? Au 7e siècle avant Jésus-Christ,
hein,
c'est ça ?
Oui, alors Napata et Méroé, ça commence un tout petit peu après. En gros, vers l'an 1000 avant notre ère, les Égyptiens abandonnent, ne clament plus la reconnaissance de leur pouvoir sur les régions de la Nubie. À partir de là, on a une écriture qui se fait un peu en pointillé pour savoir où et comment le pouvoir et l'administration s'organisent jusqu'au 9e siècle, à peu près, 9e, 8e siècle, où là, on a dans la région de Napata une famille royale qui démontre clairement qu'elle a pris le pouvoir, qu'elle est en train d'organiser son royaume autour d'une capitale, qu'on a des enterrements royaux, donc on a des signes vraiment très, très clairs d'une construction d'un État. Et ça va se développer, et puis ensuite ça va se déplacer vers le sud à Méroé. Mais c'est une période sur laquelle beaucoup de gens travaillent actuellement, parce qu'on est sans cesse en train littéralement de réécrire ce qui s'est passé entre la fin de la période de domination égyptienne et le début d'une forme d'indépendance finalement nubienne.
Et qui a donné naissance donc à ces royaumes nubiens, les pyramides nubiennes, suscitent énormément de questions. On a une notamment d'un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, Djibril Dabomé au Bénin, qui nous demande si ces pyramides nubiennes ont été construites en l'honneur de quel souverain et est-ce qu'elles contiennent encore des restes de ces souverains ? Claudry.
Alors, oui, il y a plusieurs sites pyramidaux royaux au Soudan. Hein. On estime que la première pyramide est construite probablement par Kashta, qui n'était pas encore maître de l'Égypte, mais son successeur Pianki allait conquérir l'Égypte et établir cette 25e dynastie qui va régner en Égypte pendant 70 ans. Et c'est donc le rapport avec l'Égypte, évidemment, hein, qui crée cette envie d'avoir des pyramides, alors que en Égypte, on ne fait plus de pyramides depuis 1000 ans, pratiquement. Et donc, les premières pyramides se trouvent dans le cimetière d'El Kourou. Ensuite, un deuxième cimetière est bâti à partir du règne du pharaon Taharqa sur l'autre rive à Nouri. Et on a à peu près une trentaine de pyramides à cet endroit-là, au moins des pyramides royales. Et les reines, par contre, ont leur petite pyramide à part. Hein. Et puis ensuite, c'est curieux, ça commence à se mélanger. Hein. Il y a une toute petite dynastie qui dure 5 règnes à peu près, dont les pyramides sont au pied de la grande montagne sainte du Djebel Barkal qui domine Napata. Et ensuite, effectivement, on se déplace à Méroé où on a à peu près 40 pyramides de rois, 3 pyramides de reines et 2 pyramides princières. Hein.
Et est-ce qu'on peut parler là, quand on parle de pharaon noir et de reine noire, on peut parler de pharaon noir, ce qui a quand même été longtemps impossible même à entendre pour les égyptologues du 19e, 20e siècle.
Bon, au départ, on parlait de dynastie éthiopienne. Et c'était tout à fait normal, puisque ce terme d'Éthiopie désignait le Soudan chez les Grecs et chez les Latins. Ensuite, on a parlé de dynastie kouchite, c'est-à-dire venant de Kouch, et c'est vraiment le terme. Moi, j'utilise assez souvent le terme de pharaon noir, mais c'est un terme, je dirais, médiatique.
Alors justement, ça a suscité beaucoup de questions, beaucoup de controverses, on ne pouvait pas le dire. Et puis ensuite, il y a peut-être eu des réactions autour de ces pharaons noirs longtemps oubliés, qui ont été en quelque sorte mis en avant par des historiens et des anthropologues d'Afrique. On pense évidemment à Cheikh Anta Diop. Je vous propose d'écouter la voix de Cheikh Anta Diop et vous réagirez ensuite.
Dans les temps modernes, en tout cas au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation en Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité.
Il était impossible d'imaginer des pharaons noirs. Alors, Cheikh Anta Diop a probablement eu des intuitions. Il est sûrement allé trop loin dans sa réaction. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il y a à prendre? Qu'est-ce qu'il y a à ne pas prendre, surtout dans le travail de Cheikh Anta Diop?
Bon, nous sommes tous les deux donc des égyptologues classiques, un égyptologue, je dirais même sérieux. Et donc, je sais que je vais attrister beaucoup de vos auditeurs en Afrique, où Cheikh Anta Diop c'est véritablement un héros national au Sénégal, au point que en 86, on a donné son 85, je crois,
on a donné son nom
à l'université principale.
Le Dakar.
Mais il faut bien dire que sur le plan scientifique, l'égyptologie classique ne reconnaît pas la plupart des théories dites afrocentristes prônées par Cheikh Anta Diop et par ses successeurs.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu les pharaons d'Égypte, et puis il y a eu d'autres pharaons noirs au Soudan.
Oui, oui.
C'est ça.
Oui, c'est-à-dire, pour Cheikh Anta Diop et ses successeurs, donc, l'Égypte est d'abord la mère de toutes les civilisations du monde, ce qui est totalement exagéré, bien entendu. Et d'autre part, c'est une civilisation noire au départ, c'est-à-dire une civilisation d'Afrique noire, et la langue égyptienne est l'ancêtre de toutes les langues d'Afrique, à part le berbère et le khoïsan. Or, ça, c'est totalement faux, nous le savons parfaitement. Séparer le berbère de l'égyptien ancien, alors que ce sont des langues qui sont relativement proches, c'est évidemment une erreur scientifique. Ce en quoi il a raison, mais il n'est pas le seul à l'avoir émis en son temps, le professeur Leclan, par exemple, l'avait fait aussi, c'est de voir en l'Égypte une civilisation africaine. C'est-à-dire une civilisation qui n'est pas du tout venue du Moyen-Orient, etc., même si cette population, peut-être à l'origine, est passée par le Moyen-Orient, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, elle s'est constituée dès son origine en Afrique et à partir de racines africaines.
Donc l'Égypte est une civilisation africaine, de même qu'ensuite les royaumes de Napata et de Méroé sont des civilisations africaines. À l'époque, il y avait quoi? Moins de jugement de valeur sur ces questions de couleur, justement, qu'on n'y a pu y en avoir ensuite?
Oui, le jugement de valeur, il faut vraiment attendre. En fait, les jugements de valeur viendront avec la colonisation et l'esclavage. C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas si longtemps que ça. Ne serait-ce qu'au Moyen-Âge, par exemple, Saint-Maurice est un saint noir, il est représenté noir,
et ça ne pose pas de problème,
en fait. Chez les Romains, chez les Grecs, la peau noire est considérée comme une variante intéressante, d'ailleurs.
De la fabuleuse diversité humaine.
De la diversité humaine. Il n'y a pas de racisme. En Égypte, effectivement, les Nubiens sont souvent considérés comme des ennemis, mais enfin, je veux dire, les Égyptiens avaient quelques raisons. Ils ont failli être anéantis par le royaume
Nubien
de Kerma, donc le royaume nubien de Kerma, vers 1600 avant Jésus-Christ. Mais dans les représentations, par exemple, d'ennemis vaincus, je pense par exemple aux sandales de Toutankhamon, ils marchent sur les ennemis vaincus et sont représentés un Nubien d'un côté et d'un autre côté, ce qu'on appelle un Asiatique. Mais enfin, Asiatique, il faut... C'est-à-dire quelqu'un du Proche-Orient, en fait. Donc, parfaite égalité, si vous voulez, de traitement entre les blancs barbus et les Nubiens crépus, chacun sur une semelle, en quelque sorte. Donc, on voit qu'ici, le problème est plus une question politique qu'une question, effectivement, raciale.
Vincent Francini, vous voulez rajouter quelque chose à propos des pyramides? Nous avons parlé
oui,
ces pyramides nubiennes.
Pour répondre à la question de votre auditeur, je voulais insister sur le fait que les premières pyramides construites au Soudan, en Nubie, ne sont pas royales. royale, en fait. Hein. Ce sont des pyramides qui ont été construites pendant la colonisation égyptienne par les personnes qui représentaient l'élite dirigeante de ces régions et qui s'enterraient sous pyramide simplement parce qu'ils le faisaient en Égypte, sur leur terre natale, lorsqu'ils se faisaient enterrer dans la région de Thèbes. C'est ce qui les démarquait du reste de la
Donc
population.
Donc ça a été une influence égyptienne en Nubie, qui est descendue au Nord-Soudan.
Oui, tout à fait. Et notamment avec le travail que nous faisons ensemble à Sédéinga. Je rappelle que Vincent est ici présent et co-directeur des fouilles de Sédéinga. On voit bien que la pyramide est finalement une réinterprétation du tumulus que depuis le néolithique, les Soudanais construisaient sur les tombes de leurs princes.
Donc quand on parle de métissage, là aussi, il y a un métissage architectural.
Exactement, emprunts... et on l'a à ce point... que nous avons des tumulus à l'intérieur de pyramides à Sédéinga, ce qui est absolument qui n'existe nulle part ailleurs.
Une pyramide est à l'intérieur.
À l'intérieur, on a une coupole qui ne se voit pas.
Hein. On a également des tombes d'enfants. On en a trouvé deux jusqu'à présent qui sont à côté des pyramides, littéralement de leurs parents, enfin en tout cas de leur famille, et qui sont sous la forme d'un tertre, d'une tombe tumulaire.
Autour de la question, que sait-on vraiment des royaumes et des pyramides de Napata et de Meroé, je propose d'écouter celui qui, entre Égypte et Soudan, est considéré comme le père de la musique nubienne, Hamza Eldin. Vous connaissez bien sûr, et le morceau s'appelle Nubala.
Autour de la question... sur RFI.
Tariq Lagorkan, Tariq Mogorkan, Tariq Lagorkan, Tariq Mogorkan, Mose Lagor, Mose Lagor, Mose Lagor, Mose Lagor, Nubak, Irkik, Al-Halfaga, Abu Simbil, Nubala, Jennetil, ويبرو مرتين نتونود نوبالا جنة البلادون ويبرو مرتين نتونود اسكي جنت اسكي جنت اسكي جا اسكي جا اسكي جنت انكو بيلو غابون اي غاجل نوبالا ونرجل حلا حلفا ابو سنبيل Latigo sarwene singage unni guduru esi gudange bellatigo sarwene singage unni guduru uba malle irgi malle kanu irosundo ai gajil nu balla olirki al alfala busimbi
Hamza Eldin, le père de la musique nubienne sur RFI, autour de la question que sait-on vraiment des royaumes de Napata et de Meroé, en compagnie des égyptologues Claude Rie et Vincent Francini, qui ont dirigé les fouilles des sites de Sédéinga et de l'île de Saï sur le Nil. On redécouvre aujourd'hui la puissance artistique, symbolique, culturelle, l'art et la culture de ces anciens royaumes africains. Une exposition, la première du genre au Louvre, en 2010, mettait à l'honneur Meroé, un empire sur le Nil.
60 cm à peine, datée d'environ deux siècles avant notre ère, la statue du roi Archer a été découverte il y a 35 ans sur une île du Nil, au nord du Soudan.
De lui, on ne sait pas grand-chose. C'est un roi, un archer, comme l'indiquent les protections sur son avant-bras gauche et son pouce droit, et c'est à peu près tout.
Meroé, un empire, trois nécropoles et 200 pyramides, où furent inhumés les rois de la première civilisation connue d'Afrique noire.
Là, entre le 3e siècle avant Jésus-Christ et le 4e siècle de notre ère, s'est développée une culture à la fois africaine, méditerranéenne, avec des emprunts à la Grèce puis à Rome, et à l'Égypte, sa grande voisine.
une civilisation antique qui a emprunté aux Égyptiens, aux Grecs, dans le magnifique ouvrage que vous avez publié aux éditions Seleb, Collège de France, le Soudan de la préhistoire à nos jours. On découvre aussi une originalité particulière à ces royaumes de Napata et de Méroé. Il n'y a pas eu que des emprunts.
Oui, on peut vraiment parler de métissage, dans le sens où il y a eu des influences qui ont vraiment beaucoup gagné les élites et la royauté, hein, dans la façon de gérer le pouvoir, de l'organiser.
Influences égyptiennes,
mais à partir du moment où on a traversé l'Antiquité tardive, des influences qui viennent de la Grèce antique et de Rome aussi. Ils se sont servis de beaucoup des outils qui ont fonctionné dans le bassin méditerranéen en Égypte pour organiser un État avec beaucoup d'originalité, mais il y a évidemment des caractères qui sont totalement intrinsèques à la culture africaine, napatéenne et méroïtique, notamment par exemple le pouvoir qui est accordé aux femmes. On a un statut très particulier, notamment de ce qu'on appelle la candace, qui est une sorte de reine-mère, qui est perpétuellement, pendant plusieurs siècles, associée au pouvoir, qu'on voit dans l'iconographie des temples au même titre que le pharaon, que le roi, parce que, je dis pharaon, parce qu'on est vraiment dans une société pharaonique, une deuxième société pharaonique sur l'autre vallée du Nil, si je puis dire. Et voilà, donc il y a des spécificités dans la façon d'aborder le pouvoir, dans l'art, dans les aspects religieux, dans les divinités qui sont créées au Soudan et qui n'existent pas en Égypte, dans les cultes qui sont rendus, dans la façon de rendre les cultes, dans la façon aussi de, c'était un peu mon sujet de travail ces dernières années, d'aborder la religion funéraire et la gestuelle funéraire, qui est un mélange absolument incroyable d'idées totalement locales, des choses qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs, dont on ne voit pas toujours les origines, même si on sait qu'il faut aller les chercher dans des régions certainement assez reculées par rapport à la vallée du Nil. Et puis des choses très typiquement venues du nord, de la Méditerranée, etc.
Comment se fait-il que ces royaumes, ces civilisations napatéennes et méroïtiques soient si peu connues, ou étaient si peu connues du grand public que nous sommes tous? Moi, en regardant votre ouvrage, en vous écoutant, je suis complètement fascinée. On se dit que d'autres modèles étaient possibles et qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'Égypte et pas assez peut-être sur le Soudan. Qu'en pensez-vous, Claude ?
Eh bien, bon, d'une part, l'Égypte est une civilisation absolument extraordinaire, qui a fasciné, qui continue à fasciner tout le monde. Et c'est difficile de vivre dans l'ombre de cette civilisation, en quelque sorte. D'autre part, la civilisation de Napata et de Méroé est plus tardive. Elle apparaît, en fait, au moment où l'Égypte est déjà en décadence, en quelque sorte, et ne sera pratiquement plus jamais gouvernée par des pharaons indigènes. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que l'égyptologie a commencé avec Champollion, l'égyptologie d'Égypte a commencé avec Champollion, donc normalement en 1822, l'année de découverte du sens des hiéroglyphes, alors qu'au Soudan, l'archéologie a commencé avec pratiquement 100 ans de décalage. C'est plus loin, c'est plus compliqué, il y a moins d'équipes. Et puis je dirais enfin que c'est particulier un peu aussi à la France. La France est vraiment totalement égyptocentrée, je dirais, et on a eu un petit peu de mal, et on est arrivé à l'étude des civilisations anciennes du Soudan beaucoup plus tard que d'autres pays, et notamment l'Allemagne. J'ai donné il y a quelques jours des cours à la Sorbonne. C'est la première fois qu'on me demande de faire des cours à la Sorbonne sur le méroïtique, alors que j'en fais depuis des années et des années en Allemagne.
On a tout intérêt, oui, Vincent, à redécouvrir cette histoire antique du Soudan qui nous concerne tous.
Oui, alors quand on parlait de l'implication de la France, il y a eu peut-être un petit décalage, un petit retard à l'allumage. Mais je pense qu'on a largement rattrapé le retard, et j'en suis un peu l'émanation puisque je dirige un centre de recherche qui est le seul centre permanent de recherche dans le pays. La France est le seul pays à investir dans un centre permanent comme elle le fait en Égypte et dans d'autres pays.
Mais, et un centre qui est relié aux antiquités du Soudan.
En plus, il a une spécificité absolument formidable. Il est intégré au service local des antiquités. C'est-à-dire qu'on travaille sous une double bannière, le Soudan et la France. C'est un outil de coopération scientifique et diplomatique et de formation qui est absolument extraordinaire et qui vraiment est un modèle de coopération. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce modèle, c'est-à-dire ne pas travailler dans un pays, dans une structure externalisée, mais venir au sein de l'administration qui gère les antiquités, qui gère l'archéologie, qui gère l'exposition au musée national, les projets d'exposition, etc. C'est vraiment une expérience formidable qui est extrêmement positive.
Et les Soudanais eux-mêmes aujourd'hui, on sait que ça a été compliqué dans la région, les Soudanais s'approprient ce patrimoine, cette histoire, cette préhistoire.
Alors, c'est vrai que si on le compare à l'histoire de l'Égypte, il y a un nationalisme aussi en Égypte qui a permis de tout à chacun de vraiment s'intéresser aux figures clés de l'histoire ancienne, etc. C'est un processus qui n'existe pas au Soudan, et donc l'appropriation de l'histoire, elle est en train de se faire, elle est en train de s'écrire à un rythme, on va dire, un peu plus lent. Une chose est sûre, c'est que chez les personnes qui ont déjà une sensibilité envers leur patrimoine, soit parce qu'ils sont nés dans un lieu où il y avait ce patrimoine, la Nubie par exemple, ou soit parce qu'ils vivent à Khartoum et qu'ils font des études, il y a énormément de facs qui au Soudan enseignent l'archéologie, l'histoire du pays. C'est souvent des joint ventures avec des départements de français, des départements de tourisme. Les antiquités du Soudan sont placées sous l'autorité du ministre du tourisme.
Oui, si le pays s'ouvre,
on sait que l'ouverture qui est en train de s'amorcer au Soudan va générer une remise en question complète de comment on présente ce patrimoine aux étrangers, à la possibilité de le présenter à l'international. C'est un pays, par exemple, qui collabore énormément à des expositions internationales. On a cité celle du Louvre 2010. Il y avait eu avant cela le British Museum. Il y en avait eu une à l'Institut du Monde Arabe. On a prêté avec le Musée National l'an passé des pièces à une expo Les Islams en Afrique à l'Institut du Monde Arabe. Vous voyez qu'il y a une dynamique d'ouverture qui n'a jamais été aussi forte. Des escadrons, je dirais, d'étudiants qui sont en train de s'approprier l'histoire de leur pays au Soudan. Et donc, je pense que la question sera pertinente dans 10 ans. On verra comment le Soudan s'est approprié, s'est unifié autour de son histoire.
Autour de cette histoire qui a essaimé très loin, hein, sur le continent, plus loin également, autour de la question pourquoi justement ces royaumes de Napata et de Meroé ont eu une influence encore considérable sur le continent et au-delà. Je propose un nouvel éclairage. C'est celui de l'historienne de l'Afrique, Catherine Kokri-Vidrovitch, qui était récemment notre invitée.
Meroé et Napata sont très intéressants parce qu'ils font le lien entre l'Égypte, qui est considérée notre la mère de toutes les civilisations, je dirais. Les Occidentaux ont revendiqué l'Égypte pour leur grand ancêtre et les Africains ont exactement fait la même chose de leur côté. L'Égypte est une des mères du monde, si on peut dire, mais elle a influencé, elle est en Afrique. Et donc, les Égyptiens ont occupé une grande partie du sud de l'Égypte. Et progressivement, avec le déclin de l'Égypte proprement dite, juste dans les premiers siècles avant notre ère et les débuts de notre ère, vous avez des cultures qui se sont développées précisément le long du Nil, au-delà de l'Égypte. Et Meroé et Aksum en sont les grandes traces sur lesquelles il y a eu des recherches archéologiques importantes, il y a eu pas mal de choses. Dans l'exposition dont je m'étais occupée au musée du Quai Branly l'année dernière, les routes de l'Afrique dans le monde, on a bien montré justement l'importance de cette transition, disons, de cette transition historique entre l'Égypte pharaonique et puis les développements ultérieurs le long de l'océan Indien et dans toutes les régions. Et Meroé a été très intéressante. Il y avait un moment où on a beaucoup, je me souviens, c'était il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, où on a beaucoup insisté sur la sidérurgie, sur les bas-fourneaux qui ont été découverts. On en a fait à un moment le Birmingham de l'histoire ancienne. Alors, on est un petit peu revenu là-dessus depuis, mais enfin, disons que c'est un endroit très important pour la transmission des cultures qui se sont faites ensuite soit vers le sud de l'océan Indien, soit à travers les routes transsahariennes depuis le Haut Nil jusqu'en Afrique occidentale, et avec des transmissions qui sont assez évidentes.
Lieu de transmission, vous êtes d'accord avec Catherine Kokri-Vidrovitch sur ces royaumes de Meroé, de Napata au Nord-Soudan, dans cette Nubie mythique ?
Pour l'instant, elle est peut-être un petit peu optimiste, dans la mesure où on a quand même du mal à appréhender exactement quelles ont été les influences, par où elles sont passées. Il y en a, c'est absolument évident. Hein. Je prendrai par exemple le cheval. Le cheval a été introduit en Égypte probablement sous les Hyksos au XVIe siècle avant Jésus-Christ. Et ensuite, assez vite, il est arrivé dans la sur le Haut Nil. Et les Couchites se sont révélés d'excellents dresseurs de chevaux au point qu'ils en exportaient jusque chez les Assyriens. Hein. Eh bien, le nom du cheval est passé du Méroïtique en Nubien. Et ce mot, on le retrouve dans le Darfour, et on le retrouve jusque dans des langues comme le Baguiro, par exemple.
Comment est-ce qu'on dit cheval en méroïtique?
En méroïtique, le cheval, c'était probablement la prononciation, c'est écrit marqué, mais la prononciation était sûrement quelque chose comme morqué. Hein. Et les Nubiens ont rajouté le suffixe, un suffixe ti qui est habituel chez eux pour les singulatifs, qui a du coup retirer, si vous voulez, fait disparaître le cas. Et donc, en Nubien, on a Mourti. Et ce Mourti va se retrouver en four, par exemple, la langue du Darfour, c'est Morta. Et puis, je vous dis, ça va jusqu'en Centrafrique. Pareillement, on a des sphinx en argile dans la civilisation Nok, qui est au Nigeria, qui est à peu près contemporaine du royaume de Napata. Mais on ne sait pas très bien comment s'est faite l'influence, c'est des objets qui sont passés. Il y a vraiment des choses qu'on ignore en grande partie.
C'est un énorme chantier, en fait. C'est un énorme champ de recherche. On a l'impression que vous commencez juste peut-être à tirer quelques fils encore, Vincent Francini.
C'est sûr qu'il y a vraiment une dimension exploratoire, même si on n'est plus au 19e siècle, hein, dans ce territoire du Soudan. Quand on parle de transmission, il faut vraiment refaire peut-être un petit éclairage géographique sur ce qu'est ce pays, hein, malgré la division. C'est un pays immense. Lorsqu'on dit qu'on travaille en Nubie, des collègues l'avaient défini comme le « corridor to Africa », ou encore un espace entre deux mondes. Ils avaient d'une certaine manière raison, sauf qu'on connaît très bien un monde sur les deux. L'autre, on le définit très mal. On ne sait pas, par exemple, véritablement, on sait que Méroé fait du commerce d'éléphants. On sait qu'ils les chassent dans les territoires au sud du royaume sur lequel ils ont une emprise. Mais on ne sait pas nommer les régions. On ne sait pas exactement ce qu'il en était. Lorsqu'on sait qu'il y a des routes qui vont vers l'ouest, jusqu'où vont-elles? On parle de régions qui sont le Kordofan, le Darfour. Si on les réunit, c'est la surface de la France. Il n'y a pas de carte archéologique, on n'a pas encore connaissance même de ce qu'il y a en termes de vestiges. C'est des régions où les archéologues n'ont quasiment pas travaillé.
Donc il y a encore des trésors sous la terre.
Là, il y en a certainement des quantités phénoménales. Il y a un aspect évidemment impressionnant lorsqu'on couvre un territoire qui fait plusieurs fois un pays comme la France, où il y a une armée d'archéologues et une connaissance qui s'étire sur des siècles d'observation et de recherche. Le Soudan, c'est une poignée d'équipes qui travaillent principalement sur la vallée du Nil. Donc vous voyez que... Et c'est une vallée du Nil qu'on n'a pas encore fini d'ailleurs d'explorer. Alors dès qu'on en sort, évidemment, là, on en a pour des siècles.
Je propose de rester au Soudan, dans cette vallée du Nil, pour écouter un des chanteurs les plus populaires, héros national du Soudan, chanteur engagé politiquement, humainement, Mohamed Werdi, disparu en 2013. C'est votre choix à tous les deux, vous nous direz pourquoi.
المحبة فتنا بعيد مسافة قام الطريق في الناس الضيافة الضيافة حبينا اللطافة في الناس الضيافة الضيافة حبينا اللطافة في دروب المحبة في دروب المحبة فتنا فتنا بعيد مساف
autour de la question Caroline Lachowski
avec Mohamed Werdi, grande voix du Soudan, sur RFI, une voix qui a dû rythmer, qui doit rythmer votre quotidien à Khartoum.
Peut-être
François.
Pas mon quotidien, mais en tout cas, c'est vraiment la musique qu'on entend actuellement à Khartoum. Si vous allez dans un restaurant, une cafétéria, ou prenez un transport en commun, c'est ce type de musique que vous aurez. Il faut préciser que Mohamed Werdi, en plus, était nubien et vraiment une figure presque iconique.
Oui, moi j'étais à Khartoum, donc j'étais en poste à la Sefdas au moment où on a rapatrié son corps. Tout Khartoum était absolument coincé. Il y avait des centaines de milliers de personnes qui voulaient aller à l'aéroport.
Pour en hommage à Mohamed Werdi, grande voix du Soudan sur RFI, autour de la question de ces royaumes, de Napata et de Meroé, et sur ce que l'on sait. Aujourd'hui, il y a aussi, qui vous êtes peut-être dans votre archéologie, beaucoup d'outils numériques qui permettent notamment de ne pas être invasives et d'aller quoi ? D'aller voir plus loin dans les pyramides, même d'aller chercher des restes humains, de réouvrir des anciennes pyramides.
Oui, alors il y a vraiment l'appareil technique qui accompagne l'archéologue et s'étend en quantité, en qualité, et c'est vraiment, c'est à la fois une complexité pour l'archéologue parce qu'on est un peu chef d'orchestre, on dirige des missions, on a des spécialistes, mais on ajoute de plus en plus de spécialités.
Oui, il suffit pas d'avoir une pelle et de creuser.
C'est comme si dans l'orchestre il y avait des nouveaux instruments qui arrivaient tous les jours ou toutes les années et qu'il fallait réécrire la partition pour ces nouveaux instruments. Et bon, on peut en citer quelques-uns, mais c'est vrai que par exemple on faisait de la photographie aérienne par cerf-volant ces dernières années. Maintenant on fait voler des drones. Ces drones permettent de fabriquer des modèles photogrammétriques, ce qui permet d'appréhender totalement les choses différemment dès lors qu'on investit des terrains sur lesquels on n'a pas encore fouillé. C'est-à-dire qu'on peut...
De repérer déjà là où il faudrait fouiller.
Pas seulement, mais on peut quantifier, on peut faire des évaluations volumétriques de ce qui va être à déplacer. On peut, alors qu'on est dans son bureau, regarder précisément au centimètre près ce qui se passe sur le sol, à des milliers de kilomètres du site, dès lors que la documentation était bien prise. Donc voilà, oui, ça c'est des choses qui sont maintenant devenues courantes et qui le sont devenues très vite. Pour parler des ossements, tout à l'heure, ça rejoint un peu toujours la question de votre auditeur, qu'est-ce qu'on trouve dans les pyramides royales ? Je voudrais parler d'une chose qui s'est passé il y a une semaine sur le site de Meroé. Des collègues d'une équipe soudano-allemande ont déterré dans une tombe qui avait déjà été fouillée au début du XXe siècle par George Reisner, une tombe royale, des ossements. Pourquoi il y avait toujours des ossements ? Parce qu'à l'époque, lorsque George Reisner a fouillé la tombe, les observations anthropologiques étaient simples. Est-ce que c'est un homme ? Quel âge il a ? Etc. Et puis, on n'avait pas vocation forcément à garder tous les restes humains ou à les entreposer dans un musée ou une réserve. Et il a fait la même chose d'ailleurs avec la céramique qui n'était pas décorée, les choses qui n'avaient pas d'importance pour les musées. Et du coup, les collègues ont réouvert la tombe où il avait réenfoui ces choses, parce que maintenant, une étude de céramique, on peut la pousser beaucoup plus loin, on peut en dire 10 fois plus de choses. C'est exactement la même chose avec les restes humains, des restes humains royaux qui ont été vus même il y a un siècle. On va pouvoir les faire parler de manière extraordinaire.
L'ADN peut
On peut essayer l'ADN. Alors là, malheureusement, au Soudan, il y a très peu d'essais qui ont réussi sur l'ADN. La dégradation, apparemment, est très forte, due notamment aux conditions de chaleur extrêmes. Par contre, on peut utiliser des analyses sur les isotopes. Alors, les isotopes stables particulièrement, les isotopes atomiques, on les utilise pour les datations. Mais avec les isotopes stables, on est capable de dire, par exemple, entre celui qui est contenu dans les mailles de vos dents et celui qui a continué de s'enrichir tout le long de votre vie, alors que les mailles de votre dent ne gardent une trace que de l'enfance, si une personne s'est déplacée entre le lieu où il est né et où il a grandi dans sa petite enfance, et ça nous permet de dire est-ce qu'une personne est originaire d'une région, est-ce que la personne est originaire d'une autre région. Éventuellement, on peut
retracer les déplacements,
désigner la zone particulière d'où vient une personne.
Claude Rigny, vous avez notamment mis à jour les plus grandes collections d'inscriptions méroïtiques. Et là aussi, les outils numériques peuvent vous aider à préserver notamment ces manuscrits. Enfin, ces manuscrits, on ne dit pas des manuscrits d'ailleurs.
Non, ce sont la plupart du temps. Enfin, ce que nous avons trouvé à Sedinga, effectivement, ce sont des inscriptions sur du grès. Il est extrêmement rare. Il n'y a qu'un seul site qui se trouve en Égypte, d'ailleurs, totalement au sud de l'Égypte, où nous ayons des papyri. Le reste du temps, ce sont des inscriptions sur d'autres supports, essentiellement la pierre.
Mais vous avez quand même fait numériser en France, par Arcanum, une série de...
Oui, alors il ne s'agit pas d'inscriptions, il s'agit d'une toile collée sur un sarcophage, toile qui était totalement décorée de scènes empruntées aux vignettes des Livres des Morts, et ceci a été effectivement... Alors, la toile a été trouvée en morceaux par mon prédécesseur sur le site, Catherine Berger, qui l'a ramenée en France en l'an 2000. Et ensuite, Arcanum a... Enfin, ça a été d'abord restauré à Toulouse, aux ateliers Materia Viva. Et ensuite, effectivement, Arcanum a proposé d'en faire une numérisation haute qualité.
Je vous propose justement d'écouter Christian Chabrier, qui était à l'époque directeur d'Arcanum, spécialisé dans la... numérisation du patrimoine africain. On écoute son éclairage au micro de Raphaël Constant.
Ces fragments avaient été rapatriés en France pour être restaurés. Vous imaginez des fragments de tissu avec des lambeaux de galeries, de termites, de terre et autres matériaux qu'il a fallu donc parfaitement nettoyer, réassembler comme un puzzle, essayer de retrouver la forme originelle de la toile qui était posée et sur le dessus et sur les deux côtés latéraux. Donc on a trois pièces en fait. Et ensuite, l'ensemble a été fixé sur des matériaux neutres, rigides, qui ont permis ensuite d'être stockés dans des cantines avant qu'elles ne partent définitivement au Nord-Soudan.
Comment on numérise un patrimoine aussi fragile ?
Alors, pour cela, on utilise des scanners très spécifiques. Dans le cas présent, on parle de toiles qui faisaient 2 mètres de long sur 1 mètre de large, ou peut-être moins. Et puis surtout, avec une deuxième spécificité, c'est que chacun de ces documents est numérisé manuellement.
Et justement, pourquoi est-ce que c'est si important de conserver une trace de ce patrimoine africain que finalement, on ne connaît pas si bien ?
À la base, la numérisation de ces fonds qu'il ne faut surtout pas altérer, c'est de préserver les originaux. Et la deuxième bonne raison, c'est de diffuser au plus grand nombre. Et là, ça devient fabuleux, parce que du coup, dès lors que Claude Rilly, l'archéologue, et le musée disposent des fichiers numériques de cette toile, la toile est désormais immobile derrière une vitrine sécurisée, j'imagine, et tout un chacun peut, si le gouvernement soudanais décide de mettre ces images sur Internet, va pouvoir y accéder. Et donc, on le voit bien aujourd'hui, tout ce qui se numérise dans le domaine du patrimoine est dans 95% des cas diffusé sur Internet. Voilà, ça n'a pas de sens de numériser, de garder ça dans son coin. Le but, c'est de le partager. Et on le voit bien depuis que la technologie est au point, qu'il y a une prise de conscience que ce patrimoine est essentiel pour reconstituer et démontrer l'histoire d'un pays et la diffuser aux générations qui viennent désormais. Donc, c'est essentiel.
Il est essentiel de partager ce patrimoine. Alors, c'est plus important la numérisation pour le partage que véritablement pour les chercheurs que vous êtes. Mais il est essentiel de partager ce que vous savez, ce que vous découvrez. On a l'impression qu'il reste tout à découvrir, Vincent, au Soudan, oui. Au Nord-Soudan, en Nubie.
Alors, vraiment, c'est vrai que dès lors qu'on parle aussi des nouvelles technologies, hein, ce petit sujet en fait état, ça a vraiment des implications sur la gestion du patrimoine. C'est-à-dire que il y a des outils techniques, on en parlait avant, qui servent vraiment à aller plus loin dans la recherche. Et puis, il y en a beaucoup d'autres qui sont là pour préserver, donner une meilleure diffusion à des découvertes, plus rapide aussi, on le voit sur un réseau social.
Surtout pour, en l'occurrence, au Soudan, en Nubie, où on connaît très peu, quelle serait, parce qu'on va arriver à la fin de cette émission, quelle serait pour vous, Vincent Francini, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir, trouver? Je sais qu'il y a tout à chercher, à fouiller,
que c'est un champ de recherche considérable. Moi, je travaille beaucoup pour les autres, donc j'aimerais trouver un texte bilingue pour Claude, qui est là. Je sais que si je lui en trouve
un. Un texte bilingue, c'est-à-dire
un texte écrit en méroïtique et dans une autre langue, mais bon,
en français si possible.
En français, voilà. Non, mais on a à découvrir dans tous les domaines. Moi particulièrement, j'aimerais qu'on avance beaucoup sur les questions d'archéogénétique. C'est vrai qu'il y a eu des tentatives, elles sont la plupart du temps échoué. Je pense que c'est aussi des questions techniques. Nous, tout ce qu'on a essayé de faire avec l'ADN ancien, qui n'a pas fonctionné encore au Soudan, on garde tous nos échantillons dans la glace. Et on sait que dans quelques années, on sera capable de lire des séquences d'ADN minuscules.
Pour pouvoir retracer justement voilà. Tout ce métissage, cette circulation
de population. Parce qu'on a un certain nombre de théories historiques sur des remplacements, des invasions, etc. Et pour l'instant, on ne sait pas les voir vraiment dans la culture matérielle. Et seule la génétique pourra nous dire si, par exemple, à la fin de Méroé, on a des invasions ou pas. Est-ce que,
dans quel sens
lorsque les Égyptiens ont pris possession de la Nubie, combien de temps il y a eu des Égyptiens qui sont vraiment venus vivre hein, à partir de quand c'était une colonie qui était en fait culturellement totalement nubienne. Il y avait plus de 109, je dirais, qui arrivaient en
réponse
Nubie.
Réponse dans l'ADN ancien, on vous reçoit, peut-être même, vous pouvez même revenir avant 10 ans, même si vous n'avez pas encore la réponse. Claude Rilly, alors vous, ce serait quoi votre...
Vincent l'a dit, ça serait fabuleux bilingue. Qu'un jour on trouve un texte bilingue. Je n'y crois pas trop parce que ce n'est pas les mêmes conditions, par exemple, que la pierre de Rosette. La pierre de Rosette est écrite par un pouvoir grec qui règne sur une population égyptienne. Les deux étant lettrés, il faut évidemment un texte bilingue. On n'a pas jamais eu cette situation à Méroé, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, par exemple, pour l'Étrusque, on attendait des bilingues avec le latin. Et puis finalement, les textes les plus proches de bilingues qu'on ait trouvés, c'était finalement avec le phénicien. Donc l'archéologie est capable de vous réserver n'importe quelle surprise.
Et surprise, il doit y en avoir certainement au Soudan. Avant de nous quitter et de retrouver Mohamed Mounir et ses musiciens du Nord-Soudan, Claude Rilly, j'aimerais bien que vous nous disiez... je rappelle aussi votre formidable et monumental ouvrage auquel vous avez participé tous les deux, qui s'appelle Soudan, histoire et civilisation de la préhistoire à nos jours. Le lien est sur notre page, il est magnifique et on a envie de tirer de nombreux fils, mais on est obligé de se quitter, donc vous pouvez peut-être nous dire au revoir, Claude Rilly, en méroïtique.
Comment est-ce qu'on dirait au revoir ? Je ne peux pas vous dire au revoir précisément en méroïtique, il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de dire. Je peux vous dire quelque chose comme que le Dieu vous donne la vie ou quelque chose comme cela.
Ça me va.
Ça vous va hein. Mm-hmm. Alors ça serait Maka Bawarit Lachate.
Je vais pas répéter, hein. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses entre physique et philosophie. Il y aura matière à contredire avec le physicien et philosophe Étienne Klein. D'ici là, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, après les bandes annonces, ce sera l'heure du journal sur RFI. I'm not listening.